Bonjour à tous, chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ben, ça va pas mal, hein. De toute façon, voilà, l'année a, ma foi, bien commencé. J'espère que pour vous, elle s'est en tout cas bien terminée, c'est-à-dire que j'espère que vous digérez bien le foie gras, les huîtres, le saumon gravlax, le chapon farci au foie gras au cèpe, le filet mignon en croûte, voilà, le gâteau au chocolat, j'espère que la frangipane au thé vert, tout ça, j'espère que vous digérez ça très bien, ainsi que les deux magnums de champagne, enfin tout ça, voilà, j'espère que vous avez été gâtés par le Père Noël, j'espère que malgré ces difficultés, malgré ce régime totalitaire, eh bien, nous pouvons malgré tout trouver des moments de joie ensemble, des moments de joie bien sûr aussi, et des moments de communion, de prière, des moments spirituels. Voilà tout ce que je nous souhaite pour 2023, parce que je sais que là-dessus, on peut s'appuyer. Et c'est un peu ce que j'essaie de nous apporter en faisant donc ce podcast désormais mensuel, comme vous le savez. Alors nous arrivons évidemment à un mois de l'ancien podcast, donc bien voilà, il fallait que je me mette au boulot et j'ai eu du mal à chercher un sujet. J'en ai trouvé un, j'ai trouvé quelqu'un à qui donner la réplique, et alors peut-être que du coup ça va vous paraître un peu indigeste, mais tant pis, je m'y suis collé, j'ai décidé de donner la réplique au papouilleur, au menteur, au bonimenteur Emmanuel Macron. Alors, je vous raconte quand même, parce que le truc, c'est que je sais que la plupart d'entre vous n'avez pas écouté les vœux, enfin pas la plupart, la totalité d'entre vous qui m'écoutez n'avez pas écouté les vœux d'Emmanuel Macron. Au 31 décembre à 20h. Moi-même, j'étais chez des amis qui restent de bons amis. Je leur ai dit, voilà, est-ce qu'on n'écouterait pas quand même les vœux d'Emmanuel Macron ? Ils m'ont dit, écoute, si tu veux prendre ton téléphone, aller dans les chiottes, éventuellement, tu peux écouter les vœux d'Emmanuel Macron. Mais nous, si ça t'ennuie pas, on aimerait passer une bonne soirée. Voilà. Alors, eh bien, écoutez, je me suis rendu, hein, vaincu. J'étais extrêmement minoritaire, vous pensez bien. Mais je les ai écoutés pour vous en replay et j'espère que vous m'en saurez gré. Vous m'êtes de cela très, très, très redevable. Alors, puisque vous m'êtes redevable, eh ben, je vais vous demander en retour, alors je ne vous demanderai pas d'argent, hein, je vous rassure. En revanche, ce que je vais vous demander, c'est de partager ce podcast, de le faire connaître. C'est beaucoup d'heures de travail, c'est beaucoup d'abnégation. C'est lorsque on donne la réplique à quelqu'un comme Emmanuel Macron, c'est presque du sacerdoce, tellement ce qu'il dit est dégoûtant. Mais notre rôle, c'est de donner la réplique et c'est ce que nous allons faire. Alors, bien entendu, ses voeux s'appuient sur le mensonge, l'humiliation. Voilà, on a affaire à un menteur psychopathe, on le sait tous. C'est pour ça que je vais essayer, je vous promets rien, mais je vais essayer de limiter au maximum les extraits sonores. J'ai essayé de les limiter au maximum pour ne pas vous infliger trop d'Emmanuel Macron, parce que je sais que ça fait mal, je sais que ça fait... voilà, je sais ce que ça fait, parce que d'abord, ses vœux sont extrêmement longs. C'est de la déclamation de théâtre, hein. C'est vraiment, il nous fait un putain de show, voilà, il nous sort à peu près tout ce qu'il a appris au cours de théâtre donné par Brigitte. C'est très, c'est monté, c'est déclamé, c'est joué, c'est un acteur, hein. C'est le Zelensky français, hein. Il a une voix moins désagréable, cela dit, parce que Zelensky, c'est vraiment, voilà, c'est une voix en fin de vie, hein. C'est vraiment quelque chose de terrible. Cela étant dit, c'est difficile. Alors, ce que je vais donc faire, c'est que je vais, bien entendu, essayer de vous passer le minimum d'extraits, je vous l'ai promis, mais bon, malgré tout, vous me pardonnerez, je suis obligé, je fais un effort, c'est promis, merci de rester avec moi.
Mes chers compatriotes.
Alors, trois premiers mots de Macron de mensonge. Quand il dit « mes chers compatriotes », d'abord, Macron s'adresse à vous, à nous, aux Français. Et les Français ne lui sont pas chers. Quelqu'un qui est cher, c'est quelqu'un qui nous est cher, c'est quelqu'un pour qui on éprouve quelque chose de positif, c'est quelqu'un pour qui on éprouve de la bienveillance, quelqu'un qu'on espère, pour qui on éprouve de l'estime, quelqu'un pour qui on éprouve de l'affection, à qui on veut s'exprimer de façon cordiale. Macron, c'est pas ça. Macron, il n'a que mépris pour les Français. Hein, et il est vraiment programmé pour leur faire du mal et il y prend plaisir. Donc Macron, quand il vous dit mes chers compatriotes, eh bien sachez que les fameux compatriotes ne valent pas cher à ses yeux. En outre, quand il parle de compatriotes, et c'est le deuxième mensonge, non, Macron n'est pas un compatriote. Macron est vendu aux forces de la mondialisation. Macron est vendu, enfin Macron n'est pas, voilà, n'est même pas vendu. Il est là, il représente les intérêts de Rothschild, les intérêts d'Obama, les intérêts des États-Unis d'Amérique, les intérêts éventuellement de l'Ukraine. Enfin, c'est la même chose, mais en tout cas pas les intérêts de la France. Donc non, Macron n'est pas un compatriote, il n'est pas digne de la citoyenneté française. J'espère qu'un jour il la perdra parce qu'il en est indigne. Et donc Macron, non, alors pardon d'être outrancier, mais Macron n'est pas un compatriote. Donc, trois mots, deux mensonges. Macron, c'est d'abord et avant tout une bouche menteuse. Macron qui parle, bouche qui ment. Pardon de citer Victor Hugo. Enfin, Victor Hugo, il avait mis autre chose avant Macron, mais bon, vu que j'ai pas envie, à cause d'une citation de Victor Hugo, d'avoir des ennuis, je vais en rester là. Donc Macron qui parle, bouche qui ment, ça, il faut le savoir, regarder sa bouche. De cette bouche ne sort que du mensonge, que de la malveillance. En général, quand Macron dit quelque chose, il faut comprendre le contraire. Macron, après mes chers compatriotes, Macron embraye directement sur, c'est la sixième fois que je vous présente mes voeux. Ça, c'est pour vous humilier. Ça veut dire, en gros, ben voilà, nananère, j'ai été réélu, je suis toujours le président de la République, vous avez souffert et vous continuerez à souffrir. C'est vraiment typiquement Emmanuel Macron, c'est le cynisme, l'humiliation, le mensonge. Tout ça fait partie du personnage. Par conséquent, voilà, Macron, là vous présente donc ses vœux pour la sixième fois. Il a en réalité recueilli donc les suffrages de 14% des électeurs. Et ce type se prétend le président de la République légitime. Maintenant, comment il est arrivé à ce poste, par quels artifices, par quelles entourloupes, ben voilà, ça c'est un autre débat. On pourra en débattre longtemps. En tout cas, moi j'ai mon opinion, c'est-à-dire que Macron n'est pas du tout légitime à son poste de président de la République. Il a usurpé le poste, il a fait un véritable hold-up électoral. Il est de plus en plus clair pour qui veut ouvrir les yeux qu'en 2017, c'est François Fillon qui aurait dû être élu. François Fillon a été brisé. Alors, je ne vais pas le plaindre, hein, puisque François Fillon, dès qu'il a pris connaissance des résultats du premier tour, il a appelé à voter Emmanuel Macron, tous ces gens-là, au deuxième tour. Donc, ces gens-là n'ont que ce qu'ils méritent. Je ne vais pas les. Voilà. On va certainement pas pleurer. Mais Emmanuel Macron n'est pas légitime à son poste de président de la République, et il le sait. Et il le sait, et il a peur. Une preuve qu'il a peur, c'est que, figurez-vous que la première catégorie de personnes en faveur de qui ont les vœux du président de la République, qui ont l'attention du président de la République, eh bien, c'est les officiers, enfin, c'est les militaires, hein, officiers et soldats, notre armée, nos policiers, nos gendarmes, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui veut être sûr de compter sur l'outil répressif. Parce que Macron sait qu'il fait des misères aux Français. Macron sait qu'il fait du mal. Macron sait qu'il met des gens en très très grande difficulté. Il le fait exprès. C'est un démon. C'est quelqu'un de mauvais. C'est quelqu'un d'intrinsèquement mauvais. Donc cet homme sait qu'il fait du, enfin cet homme, il sait qu'il fait du mal aux Français et bien entendu, il a peur qu'à un moment donné, les Français se rebiffent. Et pourtant, Dieu sait que les Français sont patients. Mais Macron a peur de la révolte. On raconte que plus d'un million de grenades lacrymogènes auraient été commandées. On raconte beaucoup de choses. Bien entendu, on verra, mais on sait, on connaît la capacité et le goût de ce pouvoir, le goût de ce régime pour la répression, pour l'utilisation de l'outil répressif, que ce soit Castaner ou son successeur Darmanin. Ce sont des gens qui ont le, que ce soit le préfet de police Didier Lallement, ce sont des gens qui ont le goût, sinon le goût du sang, encore qu'ils n'osent pas trop, mais ce sont des gens qui ont vraiment le goût de faire du mal, le goût de faire du mal aux Français. Alors, bien sûr, il met au milieu de ça, il met les pompiers. Les pompiers, qu'il a comme d'autres catégories de la population, nous aurons malheureusement l'occasion d'y revenir, qu'il a très maltraité, hein, donc avec l'obligation vaccinale. Nous n'oublions pas que certains pompiers, et ne les oublions pas en ce début d'année, que certains pompiers ont été suspendus. Les pompiers qui ont été vaccinés, je pense, sont minoritaires, puisque j'ai des informations assez sûres sur le fait que beaucoup de pompiers ont fait des faux vaccins, enfin des faux certificats de vaccination pour pouvoir continuer d'exercer. Tout cela est extrêmement malsain. Et bien entendu, quand Macron passe de la pommade dans le dos, ou plus exactement, s'essuie les mains des restes de pommade qu'il avait pour qu'il a utilisé pour les gendarmes, les policiers, les soldats, les officiers, etc. Eh bien, quand il s'essuie les mains sur le dos des pompiers, eh bien, ce sont des pompiers qui ne sont même pas protégés quand ils se font caillasser dans les banlieues. Caillassé par les grands frères des gens à qui ils viennent porter secours. Alors, ensuite, bien sûr, il y en a aussi pour les médecins. Là, les médecins, là aussi, nous n'oublions pas combien certains médecins ont été. Alors, on ne sait pas exactement à quel médecin ils s'adressent. Je doute qu'ils s'adressent aux médecins qui ont été harcelés et qui continuent d'être harcelés par leur ordre. Hein, leur ordre. Aux ordres. Alors, à l'exception de Christian Perron, qui, Dieu soit loué, a été lui blanchi par le Conseil de l'Ordre, encore qu'il y a des procédures en cours, tout ça n'est pas fini. Mais donc, les médecins sont poursuivis, enfin, les médecins sérieux, ceux qui ont précisément exercé la médecine au moment du Covid, eh bien, ces médecins-là sont malheureusement harcelés, persécutés par leur ordre. Pour simplement avoir soigné, avoir traité. Il ne fallait pas soigner, il fallait vacciner, il ne fallait surtout pas soigner, alors que des traitements existaient. Et beaucoup de médecins aujourd'hui sont donc persécutés pour le simple fait d'avoir soigné. Ils sont persécutés souvent, il faut le savoir, sur dénonciation. Donc, quand Macron aujourd'hui parle des médecins, alors je pense qu'il s'adresse, les médecins à qui il s'adresse, c'est les médecins qui ont accepté de vacciner à tour de bras, qui ont fait énormément d'argent avec ça. D'ailleurs, probablement pour ça qu'ils sont en grève aujourd'hui, parce que ça doit leur manquer, et leur train de vie, le train de vie auquel ils ont été habitués, et puis on prend vite ce genre d'habitude, hein, le train de vie auquel ils ont été habitués suite au fric qu'ils ont fait avec des vaccins, eh bien, ce train de vie est en baisse aujourd'hui, puisque l'engouement pour la vaccination semble, je dis bien semble, marquer le pas. Ensuite, Macron nous fait le coup que nous font à peu près tous les présidents de la République. Les temps sont rudes. Je remercie Denis qui nous a fait passer cette vidéo qui tourne en ce moment sur les réseaux sociaux. Ouais, je vous la fais écouter parce que franchement, c'est extrêmement drôle. Alors, d'accord, ça fait mal au fondement. D'entendre Sarkozy, François Hollande et consorts, mais je crois que ça vaut quand même la peine. Je vous le laisse écouter.
Françaises, Français.
Mes chers compatriotes, l'année 2008 s'achève, elle a été rude. Mes meilleurs vœux pour 2009. L'année qui s'achève a été difficile pour tous. 2010 sera une année de renouveau. L'année 2010 s'achève, je sais qu'elle fut rude, et l'année 2011 s'annonce comme porteuse d'espérance. L'année 2011 s'achève, elle aura connu bien des bouleversements. L'année 2012 sera celle de tous les risques, mais aussi de toutes les possibilités.
L'année 2013 a été intense et difficile. 2014, ce sera aussi l'année de décisions fortes.
L'année 2014 fut une année rude. 2015 doit être une année d'audace, d'action et de solidarité.
2015 fut une année de souffrance et de résistance. Faisons de 2016 une année de vaillance et d'espérance.
L'année 2018 ne nous a pas épargnés en émotions intenses de toute nature. Cette année 2019 est à mes yeux décisive.
Durant l'année qui vient de s'écouler, nous avons vécu des moments d'épreuve. La décennie qui s'ouvre peut être la nôtre.
Oui, cette année 2020 a été difficile. Que 2021 soit une année heureuse pour chacune et chacun.
À nouveau, cette dernière soirée de l'année est marquée par l'épidémie et les contraintes renforcées qui pèsent sur notre quotidien. 2022 sera l'année de tous les possibles.
Bonne année à tous.
Vive la République et vive la France.
Comme quoi, vous voyez, les mecs se foulent pas quand même pour la communication. Hein. Ils se, voilà, la vie va. Hein. Vraiment, les présidents de la République qui se succèdent sont d'une médiocrité quelque chose de vraiment navrant.
Et malgré toutes ces crises, tous ces défis, 2022 fut aussi, pour nous tous, une année démocratique intense, au cours de laquelle vous avez renouvelé notre Assemblée nationale et où vous avez, lors de l'élection présidentielle de ce printemps, décidé de me confier un nouveau mandat de 5 ans à la tête de notre nation, ce qui m'honore et m'oblige.
Là, quand même, quand il dit, quand il parle d'intense vie démocratique, alors qu'il a refusé de faire campagne, il a refusé de débattre, il a refusé de dire ce qu'il allait faire, il a vraiment été, il s'est présenté au suffrage universel de façon ultra arrogante, tout à fait odieuse. Il a fait à peu près, c'est intéressant d'ailleurs parce que finalement ce sont à peu près les mêmes méthodes partout dans le système mondialiste, c'est-à-dire que comme par hasard, ceux qui sont élus sont ceux qui font le moins campagne. Ceux qui mouillent la chemise, eux, ils sont battus. Or, ceux qui font le moins campagne, on se rappelle tous hein, de Joe Biden qui faisait campagne depuis son sous-sol. Ce type était absolument ridicule. Eh bien, Macron, c'est un petit peu pareil. C'est celui qui fait le moins campagne. Trudeau, ça a été la même chose, etc. Donc, ces gens-là ne font pas campagne. Ces gens-là refusent le débat. Ces gens-là refusent de faire ce que doit faire un candidat, c'est-à-dire débattre et redevenir un simple citoyen. Macron, il a été exactement le contraire. Ensuite, quand on voit que Macron est en réalité élu au suffrage universel, avec, si l'on compte les abstentions, si l'on compte les fraudes et autres, bien Macron est en réalité élu par 14% des Français. Je vous rassure, les 14% des Français, je ne pense pas que beaucoup m'écoutent, mais je vous rassure, les 14% qui ont voté Macron, ils vous méprisent autant que les autres, peut-être même davantage.
Car je crois que cette année 2023 est d'abord celle de questions que je sais inquiétantes et de crises une fois encore à affronter. Aura-t-on des coupures d'électricité ? Si nous continuons à économiser l'énergie, comme nous le faisons depuis quelques mois, et comme je vous l'annonçais dès le 14 juillet dernier, et que nous continuons de remettre en service nos réacteurs nucléaires comme prévu, nous y arriverons. C'est entre nos mains. Aura-t-on des augmentations du prix de l'énergie ? Là aussi, nous avons mis des réponses concrètes en place. Je le dis à chacun d'entre vous, car alors que les prix de l'énergie ont atteint des niveaux historiques, la hausse restera plafonnée dans notre pays. Je le dis en particulier à nos artisans, nos boulangers, mais aussi à nos entreprises les plus industrielles. Dès demain, vous aurez des aides adaptées, en plus du bouclier tarifaire déjà mis en place, de telle sorte que la pérennité de votre activité, de nos emplois, de notre compétitivité puisse être assurée.
Quand j'entends cet extrait, franchement, bon, bien sûr que les bras m'en tombent et tout ça, mais je me demande si en fait, si Macron a pas envie d'absolument tout faire pour que ça explose, pour que les gens explosent de colère. Je pense que c'est vraiment une technique chez lui, c'est de vraiment de faire du mal aux gens vraiment et de les mettre en colère. Vous savez, c'est un peu comme ces parents qui irritent leurs enfants comme ça, hein, c'est qui ont merde leurs gosses jusqu'à ce que les gamins deviennent odieux. Ça arrive, il y a des mauvais parents, hein, malheureusement ça existe. Mais Macron, c'est un peu ça, c'est-à-dire que là il est en train de vous dire vous avez peur, il y a des angoisses. Vous êtes très angoissé, tout a été fait pour, hein. Mais sachez que ce qui va arriver, si ça arrive, ce sera de votre faute. Par contre, nous, on a remis en place les centrales nucléaires alors qu'ils les ont fermées. Ne vous inquiétez pas, on va vous aider pour limiter la... Vous aurez des aides parce qu'il y a eu une hausse historique, etc. Alors qu'ils sont responsables de la hausse historique. Il suffirait de sortir du marché européen de l'énergie pour comme l'ont fait par dérogation l'Espagne et le Portugal. Et aujourd'hui, on est dans un système absolument absurde qui fait que les prix de l'électricité sont maintenus artificiellement extrêmement élevés. Tout ça, Macron le sait, et il est en train de vous dire, voilà, s'il y a des coupures, ce sera votre faute. Alors là, quand il fait appel au... Je veux dire, quand il fait semblant de s'adresser aux artisans, au boulanger qu'il est en train de faire crever, il y a des gens qui n'en peuvent plus, il y a des gens qui reçoivent des factures, mais qui relèvent de l'absurdité totale. Je veux dire que c'est juste cette France est en train de devenir l'absurdistan. C'est quelque chose d'énorme. Eh bien, Macron, il fait que leur dire, mais vous inquiétez pas, on va vous aider. Les gens ne demandent pas d'aide, Macron. Les gens se fichent de ton aide en réalité. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est vivre de leur travail. Tout simplement, ça rime à quoi cette histoire de faire monter artificiellement les prix pour ensuite aider les gens avec de l'argent qu'on n'a pas? Tout ça est absolument ridicule. Il faut que ça s'arrête. Mes amis, je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais il faut vraiment que ça s'arrête. Ces gens sont... Alors, bien sûr que derrière, je ne suis pas naïf, bien sûr que derrière il y a une volonté de destruction. La réalité, c'est que, bien entendu, il veut détruire l'artisanat au profit, notamment l'artisanat les métiers de bouche. Il veut les détruire au profit de l'agroalimentaire, qui est un lobby extrêmement puissant au niveau de l'Union européenne. Macron applique un agenda, ne l'oublions jamais, ne le perdons jamais de vue. Peut-être ne l'ai-je pas dit assez dans ce podcast, alors je le redirai si nécessaire, Macron applique un agenda. Donc aujourd'hui, évidemment, ce qui est terrible, c'est qu'il applique cet agenda vraiment de la pire des manières, c'est-à-dire en s'arrangeant pour que les gens souffrent le plus possible. Allons-nous subir une nouvelle vague de Covid ? Allons-nous travailler plus longtemps en 2023 ? Là, c'est tout simplement pour annoncer aux gens que leur système de retraite donc est en train de partir complètement en vrac et il est en train de le vendre comme il vend le reste du pays à la découpe, il est en train de le vendre à BlackRock. Là aussi, ça veut pas dire qu'on est contre une réforme du système de retraite. Bien sûr que le système de retraite doit être réformé pour être pérennisé. Bien sûr que trop longtemps en France, des intérêts se sont opposés à la moindre réforme. C'est pas les Français en général qui se sont opposés, c'est les bureaucrates et les fonctionnaires du syndicalisme qui n'ont jamais fait autre chose de leur vie que du syndicalisme en réalité. Hein, la plupart des syndicats qui ont aujourd'hui complètement perdu la main, hein, les syndicats ne sont plus dans la rue aujourd'hui, ils sont à la rue. Eh bien, ces syndicalistes, évidemment, ont empêché toute réforme. Mais aujourd'hui, Macron, ce qu'il propose, c'est pas une réforme. C'est de vendre le système de retraite par répartition aux grandes boîtes type BlackRock, etc. De le vendre. Macron vend le pays à la découpe. Il vend les fleurons industriels. Il vend le système de retraite pour générer, en réalité, pour détruire le système par répartition, contrairement à ce qu'il dit, parce que Macron ment. Hein, je l'ai peut-être pas encore assez dit, bah je vous le redis, Macron est une bouche qui ment. Donc Macron évidemment veut détruire le système de retraite par répartition pour faire plaisir aux gens qui l'ont mis en place, c'est-à-dire les banquiers. Hein, donc pour générer un système par capitalisation, c'est-à-dire que en clair, vous allez cotiser, l'argent de vos cotisations va aller dans les mains des spéculateurs, et puis ma foi, s'il reste quelque chose, et bien éventuellement vous pourrez le toucher à la retraite. Mais enfin ça, on verra. De toute façon, l'euthanasie sera là pour que vous ne preniez pas vos retraites. Donc dans tous les cas, l'affaire est déjà entendue. Et ce qui est très intéressant, c'est que Macron explique que la réforme sera mise en œuvre dès la fin de l'été 2023. Par le vote du Parlement, etc. Mais enfin bon, la vie démocratique, Macron en connaît un rayon, puisque je crois qu'ils en sont au 8 ou 9e 49-3, quelque chose comme ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le surlendemain, je crois, des vœux de Macron, le Premier ministre, oui, parce que moi je refuse de dire la Première ministre, hein, le Premier ministre Elisabeth Borne a reçu les syndicats pour une concertation. Alors ça, c'est la technique de la Macronie. En général, la concertation, c'est quand tout est décidé. Hein, c'est-à-dire que on fait semblant de consulter. Alors je retire pas hein, ce que j'ai dit donc sur les syndicats, mais il n'en reste pas moins que quand on consulte en général en Macronie, c'est que les choses sont déjà décidées. Mais bon, voilà, on vous a écouté. Après, on fera ce qu'on veut, mais en tout cas, on vous a écouté, donc vous n'avez absolument rien à dire. Et vous serez donc, c'est de toute façon le plan qu'on a décidé qui s'appliquera. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que par la suite, en fait, il cite tout ce qu'il veut détruire. L'école, la santé, le transport, l'aménagement du territoire, donc l'industrie, et j'en passe. Donc le type en réalité, donc voilà, l'école, ça a été aujourd'hui ça se résume en gros à des cours d'éducation sexuelle et des cours d'idéologie. Hein, donc Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, qui lui met pas ses enfants dans l'école publique hein, parce qu'il sait que c'est de la merde. Mais donc Pap Ndiaye, eh bien lui, donc fait son donc a réitéré sa volonté. En fait, que les petits garçons dès la maternelle veuillent devenir des petites filles et vice versa. Donc ils sont en train de l'école, c'est la destruction annoncée, voire la destruction en cours. Sans compter que aujourd'hui dans les salles de classe, certaines salles de classe ne sont pas chauffées, certaines salles de classe sont vraiment à la température minimale, et en plus les gamins doivent utiliser leur téléphone pour s'éclairer le matin. Enfin bon, c'est en train de se tiers-mondiser à une vitesse de fou. La santé, encore quelque chose qu'il veut détruire. La santé, c'est quelque chose, voilà, les lits d'hôpitaux qui ferment. Les soignants suspendus, alors qu'il y a un besoin qui se fait cruellement sentir en matière de soignants, donc les soignants qui sont suspendus, les soignants qui sont traités parce que certains soignants qui ont refusé la vaccination, ceux qui restent leur droit, on n'a pas le droit d'obliger les gens comme ça à s'injecter des produits, surtout que ce n'est en l'occurrence pas justifié. Eh bien, ces soignants, malheureusement, aujourd'hui sont suspendus, sans salaire, sans possibilité de trouver un autre emploi. Les transports, eh bien voilà, bon, bah ça marche quand ça veut. Hein. En plus, de toute façon, on est en train d'inciter en réalité les gens à moins se déplacer, voire à ne plus se déplacer. Hein. Bon, on leur présente pour ça l'hystérie climatique, etc. Donc, pour que les gens se déplacent le moins possible, oui, parce que si les gens se déplaçaient, ils pourraient aller à des manifs, par exemple, ou ils pourraient se réunir, ils pourraient se parler les uns les autres, etc. Donc, aujourd'hui, on est en train de créer exactement ce qu'on a créé à l'époque soviétique, hein, c'est-à-dire qu'on a essayé d'encadrer au maximum le déplacement des gens, puis ensuite, bien entendu, l'aménagement du territoire. Encore quelque chose que Macron prétend sauver, mais qu'en réalité il a mandat de détruire, hein, puisque aujourd'hui vous avez la désertification qui gagne notamment toutes les zones rurales. Hein. Vous avez aujourd'hui des gens qui sont qui doivent faire 30, 40, 50 kilomètres pour pouvoir se rendre dans un hôpital. Alors oui, effectivement, les bobos parisiens et lyonnais, eux, n'ont pas ce problème. Mais les gens qui vivent en zone rurale, donc quand Macron parle d'aménagement du territoire, comprendre bien sûr destruction du territoire. Même chose quand il parle de nos industries, c'est bien entendu destruction de nos industries. Et j'en passe, c'est-à-dire que la liste de ce que Macron veut détruire, eh bien, n'est pas exhaustive.
C'est par notre travail et notre engagement que nous pourrons augmenter les moyens des forces de sécurité intérieure, de notre justice, de nos armées, face aux nouveaux défis géopolitiques et à la multiplication des conflits.
Alors, pour la deuxième fois depuis le début de l'intervention, hein, Macron nous resserre les forces de sécurité intérieure, la justice et l'armée. Donc ça, c'est le goût immodéré de Macron, de Jean-Michel Trogneux et d'Alexis Kohler. C'est leur goût, et de Darmanin, c'est leur goût immodéré pour l'outil répressif. Nous en avons malheureusement déjà parlé. Ensuite, Macron nous parle de la France 2030. Alors France 2030, ça c'est son programme. C'est à peu près la seule chose qu'il a su articuler pendant sa très courte campagne présidentielle. Donc France 2030, en réalité, c'est rien de plus que l'agenda 2030 qui lui est imposé par ses maîtres aux Nations Unies ou ailleurs. Et puis Macron enchaîne sur la laïcité effective. Donc là, effectivement, la laïcité effective, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que Macron va combattre le port du voile ? Apparemment non, ça c'est pas prévu. Si j'ai une petite idée de ce que sera la laïcité effective, ça va être en France la poursuite de la persécution des chrétiens et en particulier des catholiques. L'Église catholique paie un très lourd tribut donc à cette fameuse laïcité qui, sous couvert de faire croire à une neutralité religieuse, est en réalité, et elle a été conçue comme ça, la loi de 1905 a été ainsi conçue, la laïcité est quelque chose visant à réprimer le fait cultuel, le fait religieux en France. C'est une expression française du bolchevisme, hein, c'est exactement ce qui s'est passé lors du coup d'État soviétique, enfin lors du coup d'État donc des bolcheviks, abusivement appelé Révolution d'Octobre, c'est exactement la même chose donc qui s'est passée. Voilà. Et chez nous, c'est exactement la même chose qui se passe. Enfin, on met pas les chrétiens en prison. Enfin, bientôt, ceux qui seront contre le mariage homosexuel, par exemple, iront en prison. Ou ceux qui seront, ceux qui oseront tordre un peu le nez parce que leur petit garçon demande à se faire opérer pour devenir une petite fille, eh bien ceux-là seront des transphobes et seront rééduqués par le système. Donc oui, on y va. Ne nous y trompons pas, la persécution religieuse existe bel et bien en France. Elle s'appelle laïcité et c'est une persécution religieuse essentiellement contre les chrétiens.
Et je salue en cet instant la mémoire de sa sainteté Benoît XVI, dont la disparition, je le sais, affecte beaucoup de catholiques en France et dans le monde.
Bien sûr, Macron, que la mort de Benoît XVI affecte bon nombre de catholiques, notamment les catholiques qui se sont sentis floués après le coup d'État de 2013 au Vatican, qui a vu le pape Benoît XVI être évincé au profit du pape Bergoglio, celui que tu aimes à papouiller quand tu vas à Rome. Bien sûr que les catholiques sont affectés, mais Macron, de grâce, ne fais pas semblant de t'apitoyer sur le sort des catholiques que tu méprises. Ce qui affecte beaucoup les catholiques, Macron, je vais te le dire, moi, c'est la destruction des églises presque au quotidien, le vandalisme contre les lieux de culte, presque au quotidien. C'est le délit d'entrave à l'IVG qui fait que les personnes qui s'expriment contre l'avortement, sans parler de l'avortement lui-même, qui a fait plus de morts en France que les deux dernières guerres réunies, eh bien ce délit d'entrave à l'IVG, c'est tout simplement la répression contre ceux qui pensent autrement. L'avortement, je le dis ici, haut, bien haut et bien fort, l'avortement est fait partie intégrante du projet satanique que tu es chargé de nous vendre et de conduire. La preuve que tu te fiches du tiers comme du quart de la disparition de Benoît XVI, c'est que tu n'as pas jugé utile de faire le déplacement, alors que d'autres chefs d'État l'ont fait. Tu as préféré envoyer Moussa Darmanin pour faire le job, juste pour qu'il y ait quelqu'un. Donc Macron, quand tu fais semblant de t'apitoyer avec ta voix d'adolescent, eh ben personne n'y croit. Quand Macron nomme une catégorie de population, quand Macron nomme quelqu'un, c'est qu'il veut soit l'utiliser, soit la détruire. Ça n'est jamais bienveillant.
Car la principale injustice de notre pays demeure le déterminisme familial, la trop faible mobilité sociale. Et la réponse se trouve dans l'école, dans l'orientation, dans notre enseignement supérieur, dans notre politique d'innovation et dans notre industrialisation.
Bla, bla, bla. C'est quoi le... Attends, comment il appelle ça ? Le déterminisme familial et la trop faible mobilité sociale. Ça veut dire quoi, sans clair ? Quelqu'un peut m'aider, là, parce que j'ai un problème. Le déterminisme familial, c'est juste rien dire, quoi. C'est... excusez-moi, mais voilà, c'est Alexis Kohler et Jean-Michel qui ont écrit ça. Putain, ils se sont surpassés là. C'est aussi, hein, alors ça c'est un... Mes enfants, ça c'est une manière de... C'est une dialectique, hein. Vous dites des choses très bien construites, très bien dites, et en fait, on l'a vu d'ailleurs dans le précédent podcast avec Tristan Mendes France et Rudi Reichstadt, ils vous balancent comme ça des concepts avec des mots très savants. La plupart des gens n'osent pas dire qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils ont peur de passer pour des imbéciles, mais en réalité, les imbéciles, ce sont eux. Voilà, ce sont les gens qui balancent ces concepts parce que il suffirait simplement de leur poser la question, mais au fait, qu'est-ce que ça veut dire le déterminisme familial? Et puis, En général, bah, les gens sont sont perdus en race campagne, s'ils sont en panne, parce qu'ils peuvent pas répondre, tout simplement. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas compris. Je suis quelqu'un d'extrêmement limité, vous l'avez sans doute constaté. Donc, si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne. Alors ensuite, Macron semble se plaindre de la confiance dans la vie démocratique qui s'est émoussée. C'est bizarre parce que, juste avant, il a parlé d'une année démocratique intense. Alors c'est intense ou c'est émoussé ? C'est vraiment c'est le en même temps, hein, le tout et son contraire. Alors oui, effectivement, ce qui s'est simplement passé, c'est que les gens ne sont pas allés voter parce que bah ils savent que l'élection est volée, donc ils savent que ça ne sert à rien. Et même si le processus électoral, ce que je ne crois pas, moi je suis persuadé que l'élection a été trafiquée. Mais même si le processus électoral n'était pas trafiqué, la campagne électorale est tellement viciée, la campagne électorale est tellement pourrie, la campagne est tellement, je veux dire, médiatiquement jouée d'avance, je veux dire, le pouvoir en place, le régime totalitaire bénéficie de tellement de passe-droits médiatiques que on peut pas parler d'une vie démocratique, c'est pas possible. Donc la confiance, bah effectivement, oui, quand vous voyez quand vous bouffez à la télévision du Macron matin, midi et soir, sur les télés, quand vous n'avez pas du Macron, c'est de l'opposition très contrôlée. Bah, je veux dire, c'est normal que la confiance dans la vie démocratique s'émousse. Macron, oui, c'est normal. En réalité, le pire, c'est que Macron s'accommode très bien hein, du fait qu'il n'y ait pas de vie démocratique. Macron veut priver la population du contrôle de sa destinée. Ce pouvoir veut absolument tout contrôler. Là, les types, il faut les voir. Ils sont en PLS depuis 2 mois et demi parce que Twitter pourrait un tout petit peu s'ouvrir. Donc là, ils sont complètement en PLS. C'est un régime dictatorial. C'est un régime totalitaire. Macron disait une fois, vous ne savez pas ce qu'est une vraie dictature. Si, la vraie dictature, c'est Macron. La vraie dictature, c'est ce président d'une république bananière qui est une république mais qui n'est pas la France, qui n'est plus la France. Donc quand Macron parle d'une confiance en la démocratie qui s'est émoussée, bon, moi j'ai jamais eu beaucoup confiance de toute façon hein, dans la démocratie. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. La démocratie, si la démocratie c'est quelque chose qui consiste à choisir nos dirigeants, moi vous, très franchement je préfère des dirigeants que je n'ai pas choisis. Je préfère des dirigeants compétents et sincères que je n'ai pas choisis plutôt que des dirigeants tocards que j'aurais choisis. Bon, là, très franchement, je me retrouve avec des dirigeants tocards que j'ai pas choisis. Donc, c'est vraiment négatif par négatif. On va remarquer que ça pourrait donner du positif, mais ça, c'est valable seulement dans les mathématiques. Allez, je suis sympa, je vous ai épargné l'extrait suivant, l'extrait où il explique qu'en gros, il veut... améliorer les institutions. Alors quand il vous dit qu'il veut améliorer ou refonder les institutions ou je ne sais quoi, peu importe, en réalité entendez inscrire par exemple l'avortement dans la Constitution, c'est sans doute sa manière à lui, je pète mauvaise langue hein, mais c'est sans doute sa manière à lui de comment dire, d'exprimer sa compassion envers les catholiques qui pleurent Benoît XVI. C'est le type, vous savez, catholique, je vous aime beaucoup et tout, je sais que vous êtes triste en ce moment, je suis, et je prends soin de vous, et je vous casse la figure. Voilà, c'est typiquement Macron. C'est typiquement... Méfiez-vous de lui quand il dit quelque chose de gentil et de... Voilà, quoi. Donc, et puis alors, bon, quand il dit avec l'Assemblée nationale et le Sénat, alors que l'Assemblée nationale est quelque chose d'hostile, enfin, ils sont à 8 ou 9, 49-3, enfin bon, je veux dire, les institutions... Non, Macron, les institutions les utilise et en abuse à son seul profit. Alors, il n'est pas le seul, hein, d'autres l'ont fait avant lui, hein. Un politicien reste un politicien, je veux dire. Mais malgré tout, Macron est passé. Je ne sais pas si ça a atteint son paroxysme, parce que je pense que ça peut aller plus haut. Mais en tout cas, Macron est très très fort pour Vraiment, je crois que tout ça est en train de s'accélérer incontestablement. Tant de régimes autoritaires viennent bousculer nos fondements. Alors là, on se demande de quel fondement il parle, hein, si c'est son fondement personnel qui apparemment aime beaucoup être bousculé. Je pense qu'il y a un message subliminal là-dedans. Hein. Donc ensuite, Macron nous dit protéger nos enfants. Pardon, protéger nos enfants de quoi ? Protéger quand on leur bourre le mou, quand des psychotiques viennent leur bourrer le mou en leur disant que ils sont pas des petits garçons, ils sont des petites filles ou lycée de Versailles. C'est ça, protéger nos enfants, protéger notre information libre et indépendante. Dans ces BFM qui protègent notre information libre et indépendante. Je te signale, Macron, enfin tu l'as peut-être pas vu, mais que durant les manifestations de Gilets jaunes, je vais pas dire ce que j'ai envie de dire, mais les journalistes de BFM étaient obligés de filmer depuis les étages des immeubles. Tant ils ne pouvaient même plus descendre dans la rue, tant ils étaient détestés. Parce que oui, ces journalistes ont une très large responsabilité dans ce qui se passe. Vous savez, au moment de la chute de Ceaușescu, les journalistes passaient en file indienne sur les plateaux TV roumains pour s'excuser. Sachez les journalistes qu'il n'y aura pas d'excuses valables, que vos excuses ne seront pas recevables le moment venu, parce que le moment viendra. Et Macron, quand Macron parle d'un ordre libre et juste qui permet aux citoyens d'être heureux, bon, c'est sans commentaire, puisque Macron ne veut pas que vous soyez heureux. C'est pour ça que l'ordre est ni libre ni juste. Il est au contraire, c'est un ordre mondial, c'est un ordre qui échappe à tout contrôle national et tout contrôle démocratique. Donc cet ordre ne peut pas être libre puisqu'il échappe absolument à tout contrôle. Et c'est un ordre qui ne peut pas non plus être juste, mais ne vous inquiétez pas, c'est fait exprès, c'est pour que vous soyez malheureux. Vous savez, le capitalisme poussé à son paroxysme a besoin de gens malheureux. Le capitalisme poussé à son paroxysme ne peut pas avoir des gens heureux parce que les gens heureux ne consomment pas, ou ne consomment pas assez. Vous savez, quelqu'un qui est heureux, il consomme selon ses besoins, et quand il n'a pas de besoin. Or, le capitalisme poussé à son paroxysme, hein, c'est-à-dire le capitalisme décadent, le capitalisme dégénéré, le capitalisme Macron, le capitalisme trogneux, le capitalisme colère, le capitalisme borne, le capitalisme Ursula von der Leyen, ce capitalisme-là, qui est un capitalisme en pleine dégénérescence, celui-là a besoin que vous soyez malheureux. Aussi, quand Macron parle d'indépendance énergétique, économique, sociale, financière, stratégique, industrielle, bah, vous voyez ce qui se passe depuis bientôt 6 ans maintenant, hein, et ça pour renforcer notre force d'âme. Pour lire dans les intentions de Macron, il faut l'écouter et comprendre exactement le contraire. De toute façon, les intentions de Macron, on les connaît, c'est détruire la France.
Mes chers compatriotes, je veux, ici et ce soir, en votre nom, dire à nos amis ukrainiens, nous vous respectons et nous vous admirons. Votre combat pour la défense de votre nation est héroïque et il nous inspire. Et durant l'année qui s'ouvre, nous serons sans faillir à vos côtés. Nous vous aiderons jusqu'à la victoire.
Moi, je voudrais m'adresser à Vladimir Poutine. Je voudrais lui demander si l'année prochaine, au 31 décembre, il ne pouvait pas bombarder quelques centrales électriques et surtout les centrales de télévision de manière à ce que nous puissions être privés ou que puissent nous être épargnés les vœux de Macron. Je crois que cette année, au moins sur ce point-là, les Ukrainiens ont eu beaucoup de chance parce que bien, le fait que il n'ait pas d'électricité, ça leur a épargné les vœux de Macron. Donc, quand Macron s'adresse aux Ukrainiens, en réalité, il s'adresse à personne. Si j'étais Ukrainien, si j'entendais Macron dire « nous vous aiderons jusqu'à la victoire », je serais assez prudent. Parce que d'abord, il faut savoir, chers amis ukrainiens, parce que je compte quelques amis ukrainiens, il vous faut savoir une chose, c'est que Macron n'a pas l'argent pour vous aider jusqu'à la victoire. Donc il est en train d'endetter enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Lui, il s'en fout, il en a pas. Lui, pour lui, les enfants sont qu'un objet. En tout cas, pour Jean-Michel Trogneux, c'est clair que les enfants ne sont qu'un objet. Mais c'est accessoire et je fais un peu de hors-sujet. Je vous demande de me pardonner. Donc Macron est en train d'endetter enfants, petits-enfants, arrière et arrière-petits-enfants. Il est en train de nous endetter sur des générations. Enfin, tout ça va bien devoir à un moment donné s'arrêter. Donc, quand Macron vous dit « nous vous aiderons jusqu'à la victoire », il engage nos forces vives, il engage nos impôts, il engage le pays, il engage la dette à laquelle il ne survivra pas. Donc, c'est très grave, et puis c'est d'autant plus grave que, encore une fois, c'est une allégeance à ce que j'ai appelé tout à l'heure, mais c'est pas de moi, le parti de l'étranger. Voilà. Aujourd'hui, on va aller s'occuper des Ukrainiens. En réalité, c'est pas des Ukrainiens. Macron se fiche du tiers comme du quart. Il n'aime que lui-même et que son fondement et son nez pour pouvoir y introduire de la cocaïne. Non, non. Macron, en réalité, veut favoriser les forces d'oppression de la mondialisation. Il se fiche du tiers comme du quart des Ukrainiens qui ont froid. De toute façon, les Ukrainiens ne l'entendent pas, ils ne l'écoutent pas, et ils ont raison. J'en profite, bien entendu, pour exprimer une fois encore mon amitié, ma solidarité, ma prière aussi à des Ukrainiens qui souffrent, qui sont sous les bombes et dans le froid. Voilà. Je voulais aussi que ce soit dit. Mais Macron, bien entendu, lui ne s'adresse, en réalité, ne s'adresse qu'à lui-même et adresse surtout à ses donneurs d'ordre le fait que donc il continuera de s'endetter jusqu'à la victoire. Victoire qui fait quand même beaucoup de doutes. Enfin, la victoire telle que l'entend Macron. Moi, je pense que la victoire pour l'Ukraine, c'est la prospérité et la prospérité ne peut pas venir de Washington, de l'Union européenne et des anglo-saxons d'une manière générale. La prospérité ne peut venir que d'un monde multipolaire. Bref, ce serait trop long. Mais en tout cas, quand Macron vous dit qu'il vous aidera sur la victoire, chers amis ukrainiens, n'y comptez pas trop.
Dans les prochains mois de 2023, les travaux de reconstruction de Notre-Dame de Paris, ce chantier exceptionnel, s'avanceront vers leur terme.
Je vous avoue que j'avais prévu un extrait plus long, mais je suis obligé de m'arrêter à cette question de Notre-Dame de Paris, puisque est sorti hier les bonnes feuilles dans la presse du bouquin de Bachelot où elle révèle que Brigitte Jean-Michel Trogneux donc avait un projet de architectural totalement obscène pour reconstruire Notre-Dame de Paris. Alors on va quand même rappeler que Notre-Dame de Paris a été incendiée en pleine Semaine Sainte. C'est pas rien. Ça a été incendié donc par une cigarette mal éteinte sur un chantier. La réalité, c'est que Notre-Dame de Paris, dont la première pierre a été posée en 1163, a traversé plus de 10 siècles de guerres de religion, de guerres mondiales, des incendies. Pendant 10 siècles, on s'est éclairé exclusivement à la bougie à Notre-Dame de Paris, et là, on nous raconte qu'une cigarette mal éteinte aurait provoqué un incendie. Et que, bien entendu, si vous osez mettre en cause cette version officielle, eh bien, on vous saute immédiatement à la gorge. Alors, pour savoir en vous disant que vous êtes complotiste. Alors, pour savoir si une thèse, pour connaître la solidité d'une thèse complotiste, eh bien, il faut voir la solidité de la répression qu'on lui oppose. Donc voilà, fermez le banc, vous ne saurez pas, je pense que ça se saura un jour, hein, le véritable projet qu'il y avait derrière l'incendie de Notre-Dame. En tout cas, il y a eu un projet que je ne vais pas décrire, hein, mais c'est un projet architectural totalement obscène pour donc ce lieu saint. Ce qui prouve le caractère éminemment satanique de ce pouvoir. Bon, je ne vais pas faire trop long sur le sujet, mais pourtant il faudra quand même que j'y revienne dans ma conclusion, et j'y reviendrai. Mais c'est en tout cas quelque chose qui, moi, quand j'ai eu ça, je remercie Philippe de m'avoir fait passer cette information, car j'étais passé totalement à travers. Et j'avoue que quand j'ai vu ça, j'en ai eu le souffle coupé, quoi. Alors, est-ce que cette information est vraie? Voilà, l'Élysée, Brigitte Macron n'a pas démenti. Donc on va considérer qu'à ce stade, c'est vrai. Et par conséquent, moi, je suis un peu... voilà, j'ai vraiment eu le souffle coupé. Donc ces gens, il faut le savoir, ne s'arrêteront pas. La culture de mort ne s'arrêtera pas. La culture de mort, il faudra arrêter. L'objectif, c'est que vous n'ayez rien. C'est que vous n'ayez... que vous restiez chez vous devant du virtuel, que ce soit Netflix, que ce soit Meta, que ce soit je ne sais quoi d'autre, hein. De toute façon, ils nous en inventeront, il n'y a pas de problème. Donc que vous restiez chez vous, et que vous soyez heureux. Et si vous n'êtes pas heureux, c'est pas grave. Il y a l'euthanasie. Et j'aimerais conclure, parce qu'il est temps de conclure, parce qu'à la fin, Macron parle de vœux de bienveillance, etc. Entendez malveillance. Macron est malveillant. Il veut votre mal. Il veut notre mal. Il veut que... voilà, ces gens-là sont profondément maléfiques et sataniques. Malheureusement, vous savez, Satan se complaît parfaitement au milieu de gens qui ne croient pas en lui. Parce que, évidemment, le fait qu'il n'existe pas aux yeux de certaines personnes fait qu'il peut plus facilement accomplir dans l'ombre ses desseins. Ici, nous avons affaire à des dirigeants qui, eux, croient en son existence et le servent fidèlement. Moi, je n'aurai qu'une chose à dire à ceux qui me disent « Mais alors, face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Bon, déjà, on n'a pas le droit de baisser les bras. Clémenceau, qui a dit beaucoup de conneries, disait que le désespoir est une sottise en politique. Le désespoir n'apporte rien. Donc, il faut garder l'espoir. La victoire sera nôtre. La victoire est certaine. Mais pour ça, je vous invite à vous tourner sans attendre vers le Seigneur Jésus. Je devrais conclure avec ça, mais j'ai eu envie de conclure avec autre chose. Je me souviens que dans les années 70, 80, 90, il est mort dans les années 2000, je crois, il y avait un chanteur qui s'appelait François Béranger. Alors moi, je fais partie de ces gens qui aiment beaucoup François Béranger. Alors le lecteur va me dire, mais comment ça, toi qui es d'extrême droite, etc., tu aimes François Béranger qui était vraiment le chantre de l'extrême gauche ouvriériste, etc. Vous savez, l'extrême droite, c'est d'abord l'extrême droiture. Et quand il y a des adversaires qui ont du talent, ça serait malhonnête intellectuellement de ne pas le reconnaître. Alors oui, j'aime François Béranger, oui, j'aime Michel Buller, oui, j'aime certaines choses de Jean Ferrat, pas tout. Mais enfin voilà, j'aime voilà, quand il y a un artiste qui a du talent et qui exprime des choses intéressantes, même si elles ne me conviennent pas forcément, eh bien, souvent j'ai quand même tendance à m'incliner et en tout cas écouter. François Béranger chantait un texte, je vous le mettrai en lien, qui disait, il chantait ça en 1978, « Si nos maîtres de main sont toujours les mêmes, qu'ils soient bons comédiens et bardés de flicailles. » C'est exactement ce que nous avons aujourd'hui. Alors, évidemment, Béranger visait Giscard et le gouvernement Giscard. Aujourd'hui, nous avons les mêmes, hein, parce que Giscard, c'est quoi? C'est l'avortement, l'immigration de masse, le surendettement. Tout ça, c'est Giscard. Hein, rien n'a changé depuis. Donc, Giscard est mort politiquement en 1981. Nous sommes donc 42 ans après. Rien n'a bougé. Hein, c'est toujours les mêmes. Hein, donc, oui, nos maîtres aujourd'hui sont toujours les mêmes. Ils sont bons comédiens et bardés de flicailles. C'est ce que vous risquez de voir à vos dépens si vous vous amusez à les manifester dans la rue en portant un gilet jaune. C'est ce qu'ont vu nos gilets jaunes en 2019. Et Béranger ajoute, si nos maîtres de main changent de figure, qu'ils brûlent avant tout toutes les ordures. Dans la même chanson, Béranger dit ceci. Des millions en ont marre d'être des cocus. Des millions qui en ont marre. Ça peut faire du chahut. Alors, j'irai pas pour autant donner le prix Nobel de littérature à François Béranger, mais j'irai en tout cas former mes propres vœux de nouvel an, de nouvelle décennie ou d'avenir pour un pays d'abord qui se bat pour sortir ces gens-là du pouvoir. Il faut un pays qui lutte, il faut un pays qui espère et il faut un pays qui prie. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis au mois prochain pour un nouveau podcast et au jour prochain ou aux semaines prochaines pour de nouveaux articles. Je vous embrasse. Merci.